En l'an 30, il y avait à peu près 120 chrétiens ensemble dans une chambre haute à Jérusalem. En 60 ans, l'an 100, les historiens estiment qu'il y avait 320 000 personnes qui suivaient Jésus. En l'an 300, 5 millions. Et en 325, l'empereur Constantin déclare le christianisme comme religion officielle dans l'Empire romain. Ce qui est très clair, c'est que l'Église primitive était une Église missionnaire, une Église qui prêchait et avançait le message de l'Évangile. Le progrès de l'Évangile et la croissance de l'Église étaient extraordinaires. Peu de temps après, le dernier empereur romain, qui s'appelait Julien, voulait rétablir le paganisme dans l'Empire romain. Il a fait construire des temples, il a entamé plusieurs efforts pour rétablir des religions romains. Il existe une lettre très intéressante de Julien à un ami qui était prêtre païen. Et voici ce qu'il écrit. « Rien n'a contribué plus au succès de la superstition de ces chrétiens que leur charité envers les exclus. Ces hérétiques galiléens pourvoient non seulement aux besoins de leurs pauvres, mais ceux des nôtres aussi. Au cœur du succès de l'Église primitive, dans leur première génération, c'était leur attitude et leur égard pour les pauvres. Et ce n'est pas une grande surprise si on connaît Jésus et les choses qu'il a enseignées. Le Nouveau Testament parle souvent de la nécessité de partager la bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus-Christ et le devoir aussi d'aider les pauvres. Et si l'objectif est vraiment d'être une église missionnaire, alors cela va de pair avec un engagement d'aider les pauvres. Et aujourd'hui, il ne manque pas d'occasion. Selon une étude de la Banque mondiale sortie en avril de cette année, il y a 1,2 milliard de personnes en situation d'extrême pauvreté dans le monde. Et la pauvreté est définie par un revenu d'un euro par jour ou moins. Et je crois, et c'est vrai que je ne connais pas la situation exacte ici en France, mais chez nous, dans ma génération, il y a un regain d'intérêt pour la question, en tant que chrétien, aujourd'hui, comment devrions-nous aider les pauvres? Et OUS, ce phénomène se traduit par un engouement extraordinaire pour les voyages missionnaires à court terme. Depuis les années 70, le nombre des personnes qui font un voyage outre-mer en mission à court terme a grandi énormément. Aujourd'hui, on estime qu'environ 4 millions de personnes en Amérique du Nord s'engagent dans un voyage missionnaire à court terme, et souvent dans les régions les plus pauvres du monde. À première vue, c'est une chose formidable. Et vu cet enthousiasme, on pourrait se poser la question... Pourquoi intituler notre conférence missionnaire « Aider sans appauvrir » ? Oui, donc danger, puisque nous sommes pleins de bonnes intentions. En effet, on pourrait se demander en quoi le fait d'aider quelqu'un pourrait le rendre plus pauvre. Alors, pour commencer, je partage deux exemples de mon expérience. L'un dans un contexte international et l'autre dans la région où j'habite. Donc, premier exemple, c'est en Haïti. Après le séisme, en 2010, notre église a commencé à prier pour Haïti et on a pensé d'y aller pour apporter notre aide. Au mois d'octobre de la même année, nous avons pris contact avec une mission qui organise les projets à court terme en Haïti. Nous les avons rejoints pour aider à reconstruire une église et une école qui étaient endommagées. Tout le monde dans notre groupe a passé une très bonne semaine là-bas. Le projet s'est bien déroulé, on a joué avec les enfants. Après une semaine, nous sommes rentrés chez nous. Notre équipe était très contente Nous avons pris beaucoup de photos et nous ressentions une grande satisfaction et une certaine fierté de notre travail. Vers la fin du voyage, j'avais commencé à me poser la question, est-ce que le fruit de notre travail est bien durable? Lors du vol retour, j'étais assis à côté de deux jeunes Américains. Ben, je me suis adressé à eux en leur disant « Ça va, votre séjour, ça s'est bien passé ?» Et ils me répondent un peu froidement « Nous, on vit en Haïti. » Comme ça. Alors, je n'ai pas beaucoup encore à parler, mais on a découvert, et je ne me rappelle pas exactement comment, mais on a fait les études au même institut biblique, Moody, à Chicago. Et du coup, après ça, ils étaient bien plus ouverts de parler avec moi. On a échangé librement et ils m'ont dit, en fait, David, le moteur économique en Haïti, c'est l'aide venant de l'extérieur, surtout l'aide américaine. Ceux qui détiennent le pouvoir en Haïti, ce sont les pasteurs évangéliques qui parlent anglais et qui établissent les partenariats avec les églises aux US. Après avoir vécu ici quelques années, on a découvert plusieurs situations malsaines. Maintenant, nous vivons en Haïti, nos enfants vont dans les écoles haïtiennes, nous parlons le créole. Maintenant, on voit des choses différemment. Et c'est vrai, selon le American Enterprise Institute, Institut d'entreprise américain, entre 1960 et 2010, Haïti s'est appauvri de 25% tout en recevant 6,1 milliards d'euros. De toute évidence, l'aide financière avec les bonnes intentions ne suffit pas. Le deuxième exemple vient de la région de Chicago, là où j'habite. Quand je faisais mes études, je vivais dans une ville assez aisée. Et j'avais des amis qui étaient étudiants aussi, et certains d'entre eux voulaient travailler parmi les pauvres après la fin des études. Mais déjà, pendant leurs études, ils voulaient vivre dans un contexte de ceux qui voulaient aider. Donc, ils se sont donc installés à North Chicago. Ils m'ont invité à les rejoindre. Donc, du coup, les 4 années suivantes, j'ai vécu dans la ville la plus pauvre dans la région où j'habite. Il n'y a même pas de supermarché, seulement des fast-food, ça on a beaucoup, beaucoup, des bars et des petits magasins vendant de l'alcool. Ce qui est intéressant, c'est juste à côté, se trouve l'une des communes les plus riches dans la région de Chicago, Lake Forest. Et juste pour vous dire, je parlais avec un pasteur dans cette ville, son ville aisée, riche, et un de ces gens dans son église, chez lui, à sa maison, le sous-sol est aménagé en théâtre d'environ 20 places. Donc c'est déjà pas mal. Et si on descend encore un niveau plus bas, il y a un terrain de basket en souterrain. Voilà. Vous savez, en hiver, en Chicago, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils étaient bien équipés à cette maison-là. Mais juste pour vous dire, ils ont de l'argent. Et un ami, un colocataire, a organisé une réunion regroupant les pasteurs de ma ville avec ceux de la ville voisine, riche. Mais j'étais étonné d'apprendre que les pasteurs de ma ville ne voulaient pas participer avec les autres pasteurs. Et la raison, dans le passé, les églises riches avaient lancé des projets bien intentionnés qui n'avaient jamais abouti. Et les pasteurs ne voulaient plus faire des réunions comme ça. Donc voilà deux petits exemples de personnes qui voulaient aider avec des très bonnes intentions, mais en fin de compte, la situation s'est empirée. Avec la mondialisation, il est de plus en plus facile de se rendre dans les pays lointains. Et le danger est bien réel de répéter les mêmes erreurs. Alors, c'est Marc, que je ne suis pas un expert moi-même non plus dans le domaine caritatif. Mais c'est vrai que chez nous, dans beaucoup d'églises américaines, on a des moyens, On a beaucoup de bonnes intentions et malgré tout, on continue à se planter. Comme peut-être vous savez, nous Américains, on est un peu spécialistes dans la matière. Mais, donc maintenant, ce que je veux faire, j'aimerais partager quelques pistes de réflexion pour comprendre ce que la Bible dit sur ce sujet. Donc, ce soir, je pose la question, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que c'est la pauvreté selon la Bible? Donc voilà. Et cette question est très importante pour bien aider ceux qui sont pauvres. Et le contraire de la pauvreté dans la Bible n'est pas simplement la richesse ou le fait d'avoir beaucoup d'argent. Cela devient clair lorsqu'on voit la situation de l'humanité dans les premiers chapitres dans la Bible. Donc, juste avant la chute, j'imagine on connaît assez bien les premiers chapitres de la Bible, mais juste avant la chute, si on prend une photo de la situation d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en premier, on voit que Adam a une relation parfaite avec Dieu. Dans le jardin, Dieu marche avec Adam et Ève. Un détail, quelque chose qui est intéressant, qu'il y a plusieurs aspects dans le jardin d'Éden qui sont décrits comme un temple. Donc les deux mots cultiver et garder sont utilisés pour les prêtres plus tard dans l'Ancien Testament. Dans l'entrée du jardin était située vers l'est, juste comme l'entrée au temple. Le temple avait toutes sortes de gravures de l'arbre et de fleurs à l'extérieur, un peu semblant au jardin. Il y avait des chérubins qui gardaient l'accès, juste comme le jardin. Et plus important, Adam et Ève, c'est comme s'ils vivaient dans le lieu très saint. Ils marchaient, ils vivaient dans la présence de Dieu. Donc, premièrement, Adam a une relation parfaite avec Dieu. Deuxième, Adam avait une relation parfaite avec l'autre. Bon, il y avait une relation entre Adam et Ève complètement transparente, ouverte, libre. C'est intéressant que la seule phrase qui décrit leur relation, c'est qu'ils n'avaient point d'honte entre les deux. Point honte. Donc, dans cet ordre créationnel, il y avait liberté, égalité, fraternité. Mais c'était les premiers Français, peut-être, non? Pourquoi pas? Et troisièmement, Adam avait une relation parfaite avec la terre. Vis-à-vis de la création, Adam est décrit comme un roi. Il est sous l'autorité de Dieu et il règne sur la création. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. La première intention ici pour l'homme, c'est qu'il domine en tant qu'être fait à l'image de Dieu. Il est le délégué de Dieu pour assurer la justice et l'harmonie dans le monde. Et ce qu'on voit là, dans Genèse, le livre du présent, c'est une image de la vraie abondance. Ce n'est pas simplement la richesse matérielle ou beaucoup d'argent, c'est plutôt une abondance basée sur des relations qui fonctionnent bien. Une relation avec Dieu, avec l'autre et avec la terre. Et je vous propose ce soir que la pauvreté, selon la Bible, c'est ce qui se passe quand ces relations-là sont brisées. Donc, qu'est-ce qu'on voit après la chute? Les deux, Adam et Ève, se rebellent contre Dieu. Et quels sont les effets? Donc, vis-à-vis de Dieu, avant, ils étaient dans ce jardin, temple, dans le lieu très saint. Et maintenant, ils sont exclus de la présence de Dieu. Ils sont dehors et ils ne peuvent pas rentrer. Vis-à-vis leurs prochains, ils avaient une relation d'égalité, d'intimité. Ils n'avaient pas honte. C'était une société parfaite. Après, la honte, le blâme, la peur, des relations profondément brisées. Et vis-à-vis la terre, avant ils étaient rois et règnes. Ils avaient l'autorité comme Dieu pour rendre la terre fructueuse et abondante. Et après, Dieu dit, comme vous vous êtes rebellés contre moi, maintenant la terre va se rebeller contre vous. Et au lieu d'être des rois, vous seriez des travailleurs. Et au pire, des esclaves. Donc, pour résumer, la pauvreté, c'est une relation brisée avec Dieu, avec les autres et avec le monde, la terre. Et cette définition est importante parce que ça va influencer nos efforts pour combattre la pauvreté. Donc, par exemple, si on pense que le problème essentiel dans la pauvreté, c'est un manque de connaissances, d'informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éduquer ceux qu'on pense sont pauvres. Ou si on pense que le problème au fond, c'est un problème avec le gouvernement. Les gouvernements qui ne sont pas bien gérés, on va essayer de réformer au fond le gouvernement. Et si on pense que le problème c'est un manque juste de biens matériels, que ce soit l'argent ou la nourriture ou l'eau potable, la technologie, on va mettre nos efforts principalement en essayant de donner ces choses aux pauvres. Et chez nous, comme on a dit tout à l'heure, dans les pays occidentaux, c'est très commun de définir la pauvreté en termes d'un manque d'argent. Par exemple, aux US, la pauvreté est souvent définie comme quelqu'un qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc maintenant, je ne sais pas exactement le numéro, mais il y a une certaine somme de l'argent, et si on vit en dessous, on est dans la pauvreté. Et il y a quelques années, maintenant, la Banque mondiale a fait une enquête en demandant aux pauvres eux-mêmes qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté. Et les résultats étaient vraiment bien intéressants. Ils étaient publiés. Et voici quelques réponses des personnes à cette question. Donc c'est une personne de l'Ouganda qui dit « Lorsque quelqu'un est pauvre, elle n'a aucun mot à dire dans la société. Elle se sent inférieure, elle n'a pas de nourriture, elle a une famille chez elle, pas de vêtements, pas de progrès dans sa famille. » Notre voix de Cameroun. Les pauvres ont un sentiment d'impuissance, est une impossibilité à se faire entendre. De la Moldavie, pour une personne pauvre, tout est affreux. La maladie, l'humiliation, la honte. Nous sommes des boiteux, nous avons peur de tout, nous dépendons de tout le monde. Personne n'a besoin de nous. Nous sommes les ordures dont tout le monde veut se débarrasser. Cela nous montre que les pauvres comprennent la conception biblique un peu mieux de la pauvreté que nous. C'est plutôt nous, dans la société plus développée, qui ne le comprenons pas. La pauvreté est beaucoup plus compliquée qu'un simple manque de ressources matérielles. Et si on revient à Genèse, en lisant la suite, on voit que l'humanité fait de grands progrès. Donc, surtout dans leur rapport avec le monde matériel. Bon, tout en faisant du progrès, tout en faisant tout ce progrès, leur vraie pauvreté augmente. Donc, on voit ceci dans deux petits exemples. Les gens qui construisent des villes. Donc déjà, c'est une avance impressionnante de faire construire une ville. Le premier, c'est qui ? Une petite quiz. Qui a construit la première ville dans le livre de Genèse? Genèse 4, 17, il bâtit ensuite une ville. C'est Cain, le frère d'Abel. Donc il a fait une grande avance de technologie de faire construire une ville, mais alors dans ses autres relations, sa louange à Dieu n'était pas acceptée et il a tué son frère. Bon, alors il fait des avances, c'est sûr, mais il a une grande pauvreté à l'intérieur. Et ensuite, juste avant la promesse de Dieu à Abraham, on a cette histoire en Genèse chapitre 11, des personnes qui construisent la ville et la tour de Babel. Donc ils veulent faire construire. En fait, écoutez ces versets, Genèse 11, verset 3, ça commence comme ça. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons, nous, une ville est une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom pour nous-mêmes. Donc, la conversation, ça commence avec une nouvelle technologie, à faire les pierres. Mais enfin, ils voulaient faire un nom pour eux-mêmes, un nom à Dieu, et voulaient rejoindre. Dieu dit à remplir la terre, ils ne voulaient pas faire. Et donc, Dieu répond avec le jugement de Babel. Et là, on est là, Genèse 11 et 12, et on commence et on est prêt pour entendre la bonne nouvelle, la réponse de Dieu à sa création, et il va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il commence avec Abraham, et on peut voir dans sa promesse à Abraham ces trois choses qui reviennent. En Genèse 17, verset 1, Dieu dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Dieu commence où? Avec la relation entre Dieu et Abraham. « Marche devant ma face, sois dans ma présence. Je ferai une alliance avec toi, ta postérité. » Et puis d'ailleurs, Dieu dit, « Tu seras une bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est une contraste remarquable. Hein? Maintenant, il n'est pas la violence ou l'injustice, mais Abraham, « Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et puis, en dernière, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Donc aussi, il donne une terre, un pays pour que les gens, les descendants d'Abraham puissent le vivre. Et on voit ce thème continue dans la Bible. Par exemple, on a les prophètes, vers la fin de l'Ancien Testament, on voit le peuple en rejeter Dieu comme leur Dieu, leur louange était corrompue. Et on fit ensuite l'effet de cette adoration pervertie, c'est l'injustice dans toute la société. Et là, Dieu dit que le peuple va aller dans l'exil, donc loin de la terre promise, loin de leur pays. Mais vers la fin de son livre, un de ses grands prophètes, Ésaïe, annonce quelque chose d'extraordinaire. Dieu va accomplir ses promesses à Abraham. Dieu va bénir son peuple. Et cette grande délivrance va venir par un serviteur, un personnage un peu mystérieux dans le livre d'Ésaïe. Écoutez cette description. Ésaïe 61, verset 1. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et ça peut être traduit « pauvre » aussi. « Malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » On voit Dieu va répondre à la pauvreté profonde avec une délivrance extraordinaire. Et puis on commence le Nouveau Testament, on voit Jésus qui démarre son ministère avec une citation d'Ésaïe, juste comme ça. Ou on peut voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est en prison, il se demande, alors c'est Jésus, c'est lui le Messie? Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et en Matthieu chapitre 11, Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourdes entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus a tout le pouvoir du Créateur. Il peut guérir, il peut restaurer les gens tels qu'ils étaient créés au commencement. Et ce que Jésus peut finalement... C'est Jésus, en fait, lui-même, qui peut finalement annoncer vraiment la bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres. Et on voit comment il fait cela. Il faut continuer à lire l'évangile de Matthieu et on voit cet Jésus, le roi, le Messie, mourant sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et lorsqu'il meurt, le voile du temple s'est déchiré en deux. Donc, c'est-à-dire maintenant le jardin, l'endroit où la présence de Dieu est libre. On a un accès libre par la mort de Jésus pour y entrer. Afin que nous les pécheurs, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et vivre en relation avec lui. Et ce qu'on a vu en Genèse, c'est que l'homme sans Dieu peut faire de grands progrès sur le plan matériel, technologique, mais l'homme reste dans la pauvreté tant qu'il y a une relation brisée avec Dieu. Et Jésus nous montre que notre relation avec Dieu, c'est vraiment la priorité. Après notre relation, et après notre relation avec le prochain, et après notre relation avec le monde, avec la terre. Donc pour terminer, l'évangile est une annonce de bonnes nouvelles aux pauvres. Et si c'est vrai, nous, qui étions éloignés de Dieu, nous étions dans une condition de pauvreté beaucoup plus grave qu'un manque d'argent ou de biens. Et cela fait une différence immense quand nous aidons les pauvres. Bon, c'est ce qui est bien nécessaire, on va voir dans les premiers deux jours. Mais nous ne les aidons pas comme les riches aidant les pauvres. Nous les aidons comme les pauvres qui aident les pauvres. Seulement, les pauvres, nous avons été gratuitement enrichis par la grâce immense de Dieu en Jésus. Et je crois que cette mentalité de reconnaître que nous partageons, on est semblable aux pauvres. Au fond, nous avons le même problème, le problème du cœur. Et cela, c'est un principe clé dans ce défi d'aider les pauvres sans les appauvrir.